Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
La souffrance et l'espérance dans l'épître de Paul aux Romains. Voilà le thème de notre série de discussions.
Pendant quelques émissions, notre invité Sébastien nous a fait part de ses réflexions sur le chapitre 8 de la lettre de Paul aux Romains, un chapitre riche en enseignements. Toutefois, lors de ces émissions, nous n'avons pas pu inclure tout ce que Sébastien avait à dire. C'est pourquoi aujourd'hui et la prochaine fois, nous écouterons d'autres extraits de ses méditations au sujet de Romains chapitre 8. Le premier extrait est une réflexion sur le verset 18 de Romains chapitre 8. Pouvez-vous le lire, s'il vous plaît, Hélène?
Bien sûr. J'estime, d'ailleurs, qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous.
Paul rappelle que cet âge présent, marqué par la souffrance, disparaîtra un jour pour laisser la place à un âge éternel caractérisé par le bonheur et la gloire. Il est vrai, l'attente de ce nouvel âge peut parfois sembler longue, pénible et douloureuse, mais elle en vaut la peine. Et la pensée que la gloire de Dieu nous attend devrait nous aider à mieux endurer les difficultés présentes. Car n'est-il pas plus facile d'affronter la souffrance si nous sommes persuadés qu'un jour elle disparaîtra à jamais? Pensons aux personnes atteintes de maladies telles que le cancer. Elles doivent endurer des traitements pénibles tels que la chimiothérapie, par exemple. Toutefois, l'espoir de guérir les aide à tout surmonter. En effet, la souffrance, l'épreuve deviennent plus supportables lorsque nous savons qu'elles ne dureront pas à jamais, mais qu'elles seront suivies par la gloire incomparable et merveilleuse que Dieu nous révélera bientôt.
Paul écrit aussi qu'aujourd'hui, nous souffrons avec Christ. Puis il en arrive à la conclusion que nous sommes co-héritiers avec lui. Expliquez-nous le sens de ce raisonnement.
Nous devons revenir à la notion de l'adoption et de la famille. Un enfant adopté doit à son tour accepter les mêmes valeurs que sa famille adoptive. Il devra suivre les mêmes principes, les mêmes objectifs qu'elle. Jésus-Christ, quant à lui, a souffert parce que le monde s'est opposé à lui. Toutefois, sa souffrance fut suivie par la gloire de sa résurrection. Le croyant, en tant qu'enfant adopté par Dieu, doit s'attendre à vivre un cheminement similaire. Du fait qu'il désire ardemment marcher avec Jésus et qu'il soit issu de la même famille que lui, il rencontrera opposition et rejet, semblable à se manifester contre Christ. Le monde n'aime pas notre nouvelle identité. Il méprise notre appartenance à Dieu. Toutefois, tout comme Christ est ressuscité, qu'il est passé de la mort à la gloire éternelle, nous ressusciterons aussi un jour pour vivre sa gloire. L'apôtre Paul le déclare dans sa deuxième lettre adressée à l'église de Corinthe. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. La souffrance disparaîtra un jour pour faire place à la gloire éternelle de Dieu. Voilà l'espérance de ses enfants.
«
Sébastien vient de déclarer que l'espérance du chrétien consiste à entrer dans la gloire éternelle de Dieu. Mais cela soulève alors la question : comment sera la vie éternelle ? Sébastien va apporter quelques réponses à cette question en s'appuyant sur des textes bibliques tirés du livre de l'Apocalypse. Ensuite, il nous aidera à mieux comprendre comment nous pouvons vivre à la lumière de cette espérance éternelle.
Le concept de la vie éternelle dépasse notre entendement. Et la Bible ne nous donne que quelques petits aperçus très imagés. Voici en guise d'exemple un extrait de récit tiré de l'Apocalypse.
Ils ne connaîtront plus ni la faim, ni la soif. Ils ne souffriront plus des ardeurs du soleil, ni d'aucune chaleur brûlante. Car l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux comme un berger. Il les conduira vers les sources d'eau vive. Et Dieu lui-même essuiera toutes larmes de leurs yeux.
Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une forte voix venant du trône qui disait « Voici la tente de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront ses peuples, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. » Alors celui qui siège sur le trône déclara « Voici, je renouvelle toutes choses. » Il ajouta « Écris que ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. » Je ne vis aucun temple dans la ville. Son temple, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine et l'agneau lui tient lieu de lampe.
Merci Sandra. Ces versets très poétiques décrivent une vision reçue par l'apôtre Jean. Ils confirment l'enseignement de Paul en Romains chapitre 8. Une nouvelle terre et des nouveaux cieux seront créés, et tous deux seront unis l'un à l'autre. Ils refléteront de façon parfaite la gloire de Dieu, et les hommes verront le Seigneur face à face, pour toujours. Ils pourront vivre en communion avec lui. C'est alors que tout ce qui est dans cet âge présent nous attriste, nous tourmente ou nous fait pleurer, disparaîtra. La souffrance ne se trouvera plus, la mort n'existera plus.
C'est merveilleux, quelle belle espérance! Mais comment vivre en attendant le retour de Jésus-Christ et la réalisation de ces choses?
Paul, en Romains chapitre 8, déclare « Si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec persévérance. » Alors, comment attendre cette nouvelle création? En nous nourrissant de cette espérance, en ayant soif de nous approcher de Dieu, en cherchant à mieux comprendre son enseignement à travers la Bible, en méditant régulièrement sa parole qui est la vie. Fortifiés ainsi, réconfortés par cette espérance, nous serons plus en mesure de persévérer à travers la plus dure des épreuves. Paul nous exhorte à attendre notre espérance avec persévérance. Il n'encourage pas là une attente passive ou résignée. Non, il nous appelle à marcher contre vents et marées. Il nous appelle à persévérer dans l'évangélisation, même quand l'opposition fait rage, que l'indifférence est affichée. Car notre espérance nous fortifie. Nous devenons capables d'aimer notre prochain et même notre ennemi et à œuvrer pour la paix et la justice, convaincus que Dieu tient en réserve pour nous un avenir éternel meilleur.
Sébastien nous a fait part de ses réflexions sur deux versets de Romains chapitre 8 que je vais lire. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Et ensuite, nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Suite aux propos de Sébastien au sujet de ces versets, Yann a voulu soulever une question précise que voici.
Sébastien, parfois des sentiments de culpabilité nous harcèlent à cause de personnes qui nous ont fait des reproches ou d'autres qui nous accusent toujours, car nous pouvons être critiqués, accusés et nous sentir jugés par les autres.
C'est vrai, Yann, et ces incidents sont douloureux et pénibles à vivre. La tentation existe de se justifier ou de rendre le mal par le mal. Toutefois, il est plus sage de se poser les questions que je viens d'évoquer, je les répète. Que puis-je apprendre de cette expérience? Ou qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre à travers ces moments difficiles? Ou comment puis-je ressembler à Jésus dans cette situation? En ce qui concerne les critiques des autres, il faut apprendre à discerner le vrai du faux. Ont-ils raison? Ayons l'humilité de l'admettre si tel est le cas, et aspirons à devenir de meilleures personnes. Devons-nous changer de comportement ou nous réconcilier avec quelqu'un? À travers notre circonstance douloureuse, Dieu nous encourage à accomplir le bien. Toutefois, lorsque les fausses accusations pleuvent contre nous, implorons Dieu de nous aider à vivre sous sa grâce et non sous la condamnation des autres. Apprenons aussi à être bons et doux envers les autres au lieu de les condamner à notre tour. La Bible déclare « Il n'y a plus de condamnation pour ceux ou celles qui met sa foi en Jésus ». Si nous croyons cela, même la plus douloureuse des épreuves deviendra plus légère.
Nous remercions Sébastien pour son enseignement enrichissant. La prochaine fois, nous écouterons d'autres réflexions de sa part sur Romains chapitre 8.
En attendant de vous retrouver, nous vous disons au revoir.
Au revoir. Et que Dieu vous bénisse.